Radio Campus Paris.
Nous sommes le lundi 3 mai, les 18h. Vous écoutez Radio Campus Paris sur l'AFM ou sur le web et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, c'est la relève, on est parti pour un quart d'heure, les musées sont fermés, les galeries aussi, mais on s'en fiche tant que les applis de rencontres resteront toujours ouvertes. J'aurais pu rajouter, tant que les librairies resteront ouvertes, bonjour Guillaume Deveau.
Bonjour.
Merci, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un en chair et en os dans ce studio, merci d'être venu jusqu'à nous.
Merci de m'avoir invité.
Votre premier roman, La Nouvelle Éducation Sentimentale, apparu aux éditions Albin Michel le 1er avril 2021, et vous y relatez la quête amoureuse d'Arthur, 28 ans, via les Tinder, Happn, d'où mon allusion très fine au site de rencontre. Comment est née l'idée de ce roman ?
L'idée de ce roman, c'est Arthur, un personnage de la vie complètement ordinaire et normale, qui d'un seul coup se retrouve pris dans l'enchaînement des rencontres et qui entend beaucoup son entourage lui dire qu'il faut pas qu'il fasse ça toute sa vie, que ça fonctionne pas, que c'est pas sain. Et lui trouve qu'au contraire, tout ce qu'il vit sur ses applis est exceptionnel humainement et donc il veut rendre hommage à ses rencontres et au-delà de la séparation qui les caractérise les unes des autres, montrer dans leur totalité un ensemble, une vérité, de dire que toutes ces rencontres sont constitutives ensemble de quelque chose comme de l'amour.
Vous, on va mettre les choses au clair, vous ne travaillez pas pour une appli de rencontre ?
Non, pas du tout.
Vous êtes plutôt un utilisateur sans être indiscret. En tout cas, qu'est-ce qui vous a intéressé comme romancier dans l'appli de rencontre ? Parce qu'avant, quand un écrivain voulait écrire une histoire d'amour, il fallait qu'il raconte l'histoire, comment ils se rencontraient. Là, c'est facile finalement, hop, un sweep et on peut mettre deux personnages ensemble.
Oui, c'est vrai qu'on passe de chez Flaubert, l'apparition, ce fut comme une apparition, c'est une phrase typique de Flaubert dans l'éducation sentimentale, à là toute une série d'apparitions numériques et provoquées, et presque, en tout cas, on craint rationaliser. Et l'enjeu, c'était de montrer que pas du tout, au contraire des rencontres fortuites, on va dire, du monde réel, les rencontres virtuelles sont encore plus soumises à l'aléa du hasard, dans la mesure où on est exposé à un nombre beaucoup plus grand de filles ou de personnes ou de garçons, selon le côté où on est, que dans la vie réelle, et que donc la possibilité du hasard, enfin le coup de foudre, ou l'inexplicable, pourquoi est-ce que c'est tombé sur elle et pas sur une autre, est encore plus intense sur les applications que dans la vraie vie.
La semaine dernière, on recevait à votre place, enfin lui il était au téléphone, Benoît Marchisio, c'est une coïncidence amusante parce qu'il publie lui aux éditions des Arènes un polar social qui s'appelle Tous Complices sur le monde de la livraison à vélo, où là aussi il y a un algorithme, alors là l'algorithme est et presque un deus ex machina. Vous, c'est plutôt finalement le hasard, le rôle de l'algorithme. Il n'a pas une influence si importante que ça sur votre héros.
Alors, votre vision est effectivement marrante, d'autant qu'à la fin, le héros Arthur, il va conclure que ce sont des applications pour chercher l'amour, pas nécessairement pour le trouver, que Tinder n'est pas Deliveroo, par exemple. Mais pour répondre à la question, moi, je ne me suis jamais poser celle de l'algorithme. J'ai toujours considéré qui finalement était la personne humaine et tangible en face de moi à la terrasse d'un café avec qui je discutais. Et que ce soit un algorithme qui détermine une rencontre ou le fait dans la vie normale, que ce soit sur un lieu de travail ou l'endogamie ou un ami d'amis, un proche, pour moi, peu importe le déterminant, c'est ce que je vais en faire par la suite de cette rencontre, tout simplement.
Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, mais là, vous venez de dire « je », alors que jusqu'à maintenant, on parlait d'Arthur. Arthur, c'est un peu vous, comme Madame Bovary, c'est un peu Flaubert, puisqu'on parle de Flaubert. Forcément, avec un titre pareil, La Nouvelle Éducation Sentimentale.
Alors, bien vu, vous m'avez eu. Plus précisément, Arthur, c'est un zoom sur un trait de ma personnalité. Arthur, c'est peut-être aussi qui je serais si je m'autorisais à dire tout ce que je pensais. Et en fait, et quand je dis tout ce que je pense, c'est pas tout ce que je pense en tant qu'opinion, valeur ou idée normative. Le personnage Arthur est parfois péremptoire, il est parfois agaçant, il ne livre que des ressentis. Jamais, quand il parle de... Il va rencontrer avec les filles sur Tinder, il va être conduit à vivre des grandes scènes symboliques des combats féministes. On peut penser à la zone grise, aux questions de consentement, aux agressions sexuelles, à l'avortement. Et il va parfois avoir des, des, des fulgurances géniales sur le sujet, mais parfois aussi des réflexions à l'emporte-pièce, susceptibles d'agacer. L'idée, c'était surtout pas de faire quelque chose de normatif, mais tout à l'inverse, de montrer un ressenti. Et donc, j'ai voulu créer un personnage qui était très libre de montrer, de se dévoiler dans la fragilité de ses ressentis pour justement qu'on puisse en parler, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse résoudre les éventuelles interrogations homme-femme, plutôt que de faire quelque chose d'un essai radical qui serait fondé sur pas grand-chose.
C'est pour ça que vous avez fait le choix d'écrire un roman plutôt qu'un essai, justement ? C'est pour qu'il puisse aussi avoir des avis, comme vous venez de le dire, à l'emporte-pièce, parfois, qui peuvent peut-être... qui sont pas très intéressants, mais qui sont ceux du personnage.
Oui, c'était pour que je voulais montrer le geste d'un garçon qui dit je suis pas du tout sourd à tout ce que j'entends sur le féminisme. Au contraire, l'idée est assez exceptionnelle. Il s'agit chacun de s'assumer tel qu'on est et de s'aimer bien, de s'aimer proprement. Donc moi, je vais me montrer tel que je suis, certainement avec beaucoup de saleté, mais le but, c'est qu'on en discute de sorte qu'à la fin, vous puissiez dire, eh ben ok, toi, tu t'es dévoilé, on va te remettre ton passeport de santé amoureux. Et on sait que t'es quelqu'un qui est de conscient, qui est ouvert à tout ça, qui est conscient de ses failles et de ses faiblesses. Et de cette lucidité, on t'offre en vrai, une reconnaissance que t'es quelqu'un de sain, qui n'est pas mal intentionné en amour.
Oui, parce qu'Arthur a beaucoup de failles. On pourrait croire, pour ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, que c'est un roman du libertinage heureux au temps des applis, mais il n'est pas si heureux que ça. Arthur, il a des problèmes de psy, il a écrit un livre sur le mal-être étudiant dont il parle à toutes les filles qu'il croit, je suis pas sûr, mais j'ai vraiment l'impression qu'il en parle à chaque fois. C'était important pour vous de parler du mal-être étudiant. Là, on est début mai, on sait que la vie a été dure pour les étudiants. On est sur Radio Campus Paris. Donc.
Pour moi, c'était fondamental et je ne vous mentirai pas du tout en disant que j'ai presque écrit le livre que pour parler de ça, que pour parler du mal-être étudiant. Arthur, il y a 28 ans, il porte encore en lui chaque jour les cicatrices et les conséquences de l'isolement psychique dans lequel il s'est trouvé pendant sa période étudiante. Il ne se remet toujours pas de cette idée que... comment est-ce que c'est possible que la période qui était censée être la plus belle de sa vie se soit finalement avérée être un enfer sur terre innommable, qui a conduit, il le raconte dans le livre, à ce qu'il quitte avec part et fracas son premier job, qui était en ambassade en Égypte, qu'il promettait à une chouette carrière diplomatique, et finalement retour à la maison, retour à Roubaix et Lille, et ça l'a profondément marqué. Il a une forme de colère, il dit d'ailleurs à un moment, qu'il a fait des études de philosophie, il était à Sciences Po et à la Sorbonne, qu'il a fait des études à la Sorbonne, il faisait de la philosophie pour trouver le sens de la vie, et il se rend compte comment est-ce que je peux sortir malheureux de la Sorbonne, d'études de philosophie. Et donc il dit, c'était pas de la Sorbonne dont j'avais besoin, c'est d'un coach de vie. Donc évidemment, tout ce qu'il a appris, il en est reconnaissant, c'est ce qui lui permet aujourd'hui de penser sa vie et de s'en sortir, mais il est en colère, et comme tous les autres ressentis du livre, il ne se gêne pas pour dire sa colère, et ce geste-là est important.
Ce mal-être étudiant, vous croyez qu'il est dû à quoi ? Il est dû à une trop grande pression, par exemple, dans son cas ? Ou pour vous, ce que vous avez peut-être vécu, ce que vous avez vu autour de vous ? Un romancier, ça s'imprègne de ce que ça voit, de ce que ça ressent.
Tout à fait. Justement, le problème de la question de la condition étudiante, c'est qu'on nous invite à romancer notre vie. On nous invite à rêver d'être grand avocat, grand professeur, grand médecin, grand entrepreneur, comme d'autres rêveraient d'être grand footballeur. On ne se pense que sur le mode de la grandeur. Personne ne se dit... enfin, si, mais de moins en moins, enfin, on ne trouve pas de personne qui se dit « Eh bien, je vais être tranquillement avec ma petite enseigne au coin de la rue. » Non, il faut que ce soit absolument grandiose, il faut absolument qu'on romance. Et en créant la volonté d'une romance, d'un idéal, on va créer un arrière-monde qui sera nécessairement déceptif. Et donc, la première chose, c'est la pression. Mais il y a 1000 autres facteurs dans la condition étudiante qui vont générer des problèmes.
La Relève, sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec Guillaume Devaux, primo-romancier, auteur de La Nouvelle Éducation Sentimentale aux éditions Albin Michel. On va juste encore continuer un petit peu là sur cette question du mal-être étudiant. Là, c'est ce que vous parlez, c'est du mal-être étudiant dans les grandes écoles. C'est là où tout le monde veut être un grand avocat. Vous savez, j'ai plus beaucoup de contact avec le monde étudiant, mais vous savez si, enfin à part ici, mais à ce micro, mais vous savez si c'est pareil peut-être dans des études moins prestigieuses, plus terre à terre, plus pratiques plutôt que terre à terre, terre à terre.
Eh bien, par extension, les études qui ne sont pas les grandes écoles ou les grands noms des facultés potentiellement parisiennes ou dans les grandes villes de province, les étudiants qui vont faire des cursus moins prestigieux, on va dire moins identifiés, eux vont fantasmer potentiellement ou avoir un complexe. d'étudiants qui en fait sont malheureux car enfermés dans cette obligation, dans ce rêve de grandeur. Et c'est beaucoup de que ce soit qu'on le regrette de ne pas y accéder ou qu'on ait l'injonction d'y accéder, on est tous perdants en fait dans ce rêve de grandeur. Et à ça va s'ajouter dans la vie étudiante, que ce soit l'amour, mais là le titre du roman, La nouvelle éducation sentimentale, éducation est bien sûr ironique, comme chez Flaubert, c'est l'histoire de quelqu'un qui n'a pas reçu d'éducation sentimentale, et il le dit, moi à l'université, à Sciences Po, on m'a tout appris, sauf à aimer, qu'on m'a vraiment tout appris, alors que...
Mais est-ce que ça, c'est pas. Parce que c'est quelque chose que dit, j'allais dire souvent Guillaume, non, pardon, il s'appelle Arthur.
Ouais.
On s'y perd. C'est quelque chose que dit souvent Arthur dans le roman. Mais est-ce que c'est pas vivre aussi, apprendre à aimer, apprendre à être malheureux, apprendre à. Je déteste ce mot, mais apprendre à être résilient.
Si.
Et mais vous pensez qu'on aurait pu. On pourrait aider les gens pour qu'ils souffrent moins?
L'intuition, elle est que le degré d'apprentissage de souffrance qu'on ne fait toujours que par soi-même, on pourrait le faire à partir d'un niveau bien plus élevé au point de départ. En fait, on commence de très très bas. Il le dit à un moment, ça fait on est 2000 ans où l'amour se réduit à des romans à l'eau de rose et des chansons romantiques. Ça ne retranscrit pas la brutalité de la rencontre entre deux êtres. C'est un mensonge. Et même la phrase que pour moi, qui est devenue cliché, mais qu'on devrait inscrire au fronton de toutes les écoles et universités de Paul Nizan, il dit, donc j'avais 20 ans, je ne laisserai plus personne dire que c'était le plus bel âge de la vie. Et il ajoute, tout menace de ruine un jeune homme, on pourrait être transformé par tout menace de ruine un étudiant, deux points. L'amour, il commence par l'amour, ensuite les idées et la perte de la famille. Et ces trois choses-là, moi j'ai vécu ça en plein, des chagrins d'amour que j'ai vécu tout seul dans ma chambre étudiante. Les idées, donc les grandes idées, là encore la grandeur, les arrière-mondes, vouloir être autrement que ce qu'on est, et la perte de la famille. Et moi, ça c'est ce qu'on est une famille saine ou malsaine, c'est pas le sujet, c'est qu'on passe d'un environnement stable et structuré à quelque chose de complètement déstructuré. Vraiment les étudiants livrés à eux-mêmes, que ce soit pour les soirées étudiantes, les cours qui finissent à 22h, la mauvaise alimentation, l'alcool, le cannabis, enfin, il y a mille et une choses qui, quand en plus elles vont tomber sur un haut potentiel ou une personne hypersensible, là ça va faire des dégâts considérables.
Il y a dans votre livre, on parle d'amour, on parle de séduction, on parle donc de manière étudiante, mais il y a aussi bien évidemment, parce que vous êtes un jeune homme de votre temps, on parle de néo-féminisme ou de féminisme, je ne sais pas s'il est nouveau ou pas, je crois qu'on dit néo-féminisme quand même. Je ne suis pas une femme, donc je ne vais pas être leur porte-parole, mais comment un jeune homme comme Arthur vit-il l'émergence de cette parole féminine ?
Lui, il la vit vraiment comme une opportunité, c'est-à-dire que quand il, tout au long du livre, dans son expression, il va prendre presque une posture non-genrée, donc là, on va dire peut-être la troisième vague féministe, années 80-90, déconstruction du genre, et il ne s'exprime même pas finalement en tant qu'homme, il s'exprime en tant qu'individu qui ressent des choses relatives à l'amour, à sa sexualité, et c'est assez non-essentialiste. Mais malgré tout, il se retrouve, lui, alors qu'il voudrait vivre les choses comme ça, sur un mode humaniste, c'est-à-dire l'individu en tant qu'humain et non pas en tant qu'homme ou en tant que femme, il se retrouve forcément pris dans la question de suis-je quelqu'un de bien, suis-je un homme bien.
C'est la quatrième de couverture.
Exactement.
Donc, de trop aimer les femmes, la peur de devenir un pervers s'est élogé en moi.
Oui, il tremble ça, il dit, il en tremble la nuit, parce qu'il constate bien à un moment qu'il enchaîne aussi les chagrins d'amour, qu'il se fait subir des chagrins d'amour à beaucoup de filles, et ça, il en souffre, donc il se pose la question, est-ce que je suis quelqu'un de bien à l'époque de l'utilisation de ces applis? Mais lui, dans le féminisme, ce qui est important, c'est, alors certes, il y a un féminisme pour les femmes, qui disent, voilà, les femmes sont différentes des hommes et elles souffrent d'inégalités et il faut corriger ces inégalités, et ça, c'est très bien. Et on a un second, qui est un peu la quatrième vague, qui est celui qui plaît le plus à Arthur, qui est un peu l'écoféminisme, celui qui consiste ou l'éthique de la bienveillance, l'éthique du care, de la vulnérabilité, qui consiste à s'autoriser à se montrer dans sa fragilité, dans ses désirs. Et c'est presque comme si Arthur, certes, il est hétéro, blanc hétéro, et c'est pas ceux qu'on attendrait aujourd'hui pour exprimer leurs états d'âme, mais pourtant il le fait en disant, regardez, moi comme tout le monde j'ai un désir, qui est un désir peut-être has-been ou hétérosexuel, mais je le dévoile, je le montre, et j'essaye de l'apprivoiser avec vous.
D'ailleurs, vous écrivez, page 208, le patriarcat n'a pas rendu l'homme heureux. Vous le croyez vraiment, ça ? Enfin, ça, c'est Arthur qui le dit, mais vous le croyez aussi ?
Je le crois aussi dans la mesure où il faudra un jour qu'on sache en fait qui a tiré les fruits et les bénéfices de cette situation où l'homme est supérieur culturellement à la femme ou économiquement ou socialement. Et qui en a tiré vraiment les bénéfices ? Qui est-ce que ça a arrangé ? Je pense qu'il faudrait le dire un jour clairement, parce que je ne pense pas que chaque homme au quotidien ait profité de ça. Qui pour moi, après, pour une vision sociologique, mais le patriarcat, c'est pour ça que j'aime l'écoféminisme, pour moi le patriarcat est lié au libéralisme et l'exploitation de la femme par l'homme et d'une continuation de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est dans ce sens-là, je pense, que je le dis.
Arthur, toujours lui, écrit « Les applis dévoilent de l'amour de dérangeantes vérités ». Quelles sont ces dérangeantes vérités ? S'il n'en fallait qu'une, parce que je veux l'heure qui tourne. Allez-y.
Et bah, c'est qu'on n'échappe pas à des schémas déterminés dans nos réactions. Et quand on enchaîne plusieurs relations sur un petit laps de temps, bah, ces schémas, on se les prend en pleine figure. Donc ça, c'est ce qui pique, c'est ce qui fait mal. Mais c'est aussi l'opportunité, c'est la conclusion du livre, de dire eh bah, du coup, apprenons, faisons cette éducation sentimentale, découvrons nos schémas, assumons-les et essayons pour le meilleur de les changer.
On n'a pas eu le temps de parler de Léa, on n'a pas eu le temps de parler de MeToo et d'autres sujets avec vous. Un quart d'heure, c'est court finalement. Merci en tout cas d'être passé par le studio de Radio Campus, Guillaume Devaux.
Merci.
Je rappelle le titre de votre livre, La Nouvelle Éducation Sentimentale, aux éditions Albin Michel. C'était La Relève, proposée, préparée, présentée par Christophe. La réalisation était assurée par Colin. Vous retrouvez le programme musical de Radio Campus Paris à 19h. C'est la matinale de 19h, c'est logique. Nous, on se retrouve dans 15 jours, le 17 mai à 18h. Et ce jour-là, on devrait bien manger. Merci.